Bonjour, bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du lundi 4 juin 2018. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Vous allez bien?
Je vais fort bien maintenant que je suis au sec.
Oui, ah oui, vous avez été bien arrosé parce que vous voyagez maintenant à bord de votre moto.
Oui.
Motocyclette ou scooter, je ne sais trop. Enfin,
en effet,
la carrosserie, c'est vous.
C'est cela. Donc, quelque peu mouillé à mon arrivée, mais maintenant dans des vêtements secs,
bon,
on va fort
mieux.
Bien. Puis on a eu un week-end magnifique. Pas.
Après la grosse canicule de vendredi, on respirait samedi et dimanche. C'était superbe.
Oui.
Et puis, le 4 juin, est-ce que c'est une date excitante côté éphéméride?
C'est quand même une date pleine d'événements récents et moins récents. D'abord, en 1534, Jacques Cartier arrive à l'île d'Abequoit, future île du Prince-Édouard. En 1613, en remontant la rivière des Outaouais, Samuel de Champlain aborde un site qui deviendra Bytown et plus tard sera renommé Ottawa. 1647, les troupes d'Oliver Cromwell capturent le roi Charles Ier. Nous sommes donc en Angleterre, Charles Ier qui sera décapité en janvier 1949. Et comme on le sait, suite à la décapitation de Charles Ier, l'Angleterre deviendra une république, il n'y aura plus de monarchie. Pendant 11 ans.
Mm-hmm.
Donc, 11 ans plus tard, retour de la monarchie, parce qu'on le sait, on a encore une reine en Angleterre, et ce sera le fils d'Oliver Cromwell qui deviendra roi à ce moment-là. 1760, en Nouvelle-Écosse, s'arrivée de 22 navires anglais transportant des cultivateurs qui prendront des terres d'Acadiens qui avaient été expulsés 5 ans auparavant. 1783, Joseph et Edgar Montgolfier effectuent leur première ascension dans un ballon à air chaud. 1843, toujours un 4 juin, fondation de Victoria, future capitale de la Colombie-Britannique. 1896, premier essai d'une automobile par Henry Ford dans les rues de Détroit. 1912, la ville de Montréal décide de créer un service d'autobus, ce qui était quand même, on peut le dire, pas une mauvaise idée du tout. 1917, création du prix Pulitzer, ce prix de la littérature. 1959, encore un 4 juin, les plantations de canne et raffineries de sucre américaines à Cuba sont nationalisées par le régime de Fidel Castro. 1974, le bilan d'une épidémie de variole dans l'état indien de Bihar dépasse 10 000 morts. 1976, le Canada annonce que la limite des eaux territoriales sera étendue à 200 000 marins, soit environ 400 km au large des côtes. 1978, les épiceries et dépanneurs du Québec sont autorisés à vendre du vin. 1989, à Pékin, place Tiananmen, les troupes du régime communiste tirent dans la foule, faisant des centaines de morts. 4 juin 1998, la Cour suprême du Canada statue que les candidats jurés à un procès peuvent être questionnés sur leurs opinions raciales. En 2005, Bernard Landry démissionne comme chef du Parti québécois et député de Verchères à la suite d'un vote de confiance, ce qui n'est pas sans rappeler possiblement une nouvelle de 2018 dont vous nous ferez part plus tard, Hélène.
À propos de Madame ex-Bloc québécois.
À propos de Martine Ouellette.
Oui.
En 2006, près de Charette, des wagons du CN déraillent et déversent du carburant dans la rivière du Loup qui se jette dans le lac Saint-Pierre. Toujours en 2006, au Journal de Montréal, un sabotage empêche l'impression et retarde la distribution. 44 pressiers syndiqués seront congédiés. 4 juin 2012, le fugitif canadien Luca Rocco Magnotta, dont on taira les crimes ici, est arrêté dans un café Internet à Berlin, en Allemagne. En 2013, le plongeur québécois Alexandre Despatie tire sa révérence après une brillante carrière de 22 ans. Et en 2014, un 4 juin, toujours lors d'une fusillade à Moncton, Justin Bourque abat 3 officiers de la GRC et en blesse 2 autres. Donc, quand même, beaucoup d'événements qui sont récents, beaucoup d'événements qui sont anciens, mais quand même assez riche côté historique aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Un grand merci, Jean-Sébastien. À la une de la presse, exclusif, 12 milliards sur 5 ans pour les aînés. Québec dévoilera aujourd'hui 85 mesures pour favoriser le vieillissement actif des Québécois. La stratégie cible en particulier les personnes de 65 ans et plus qui souhaitent demeurer à la maison et rester productives. La presse à la baie James, les emplois et les millions valaient-ils le sacrifice de la Rupert ou la Rupert? Grand Prix du Canada, quel avenir pour la F1? pause famille, ce soir, on flosse, entre guillemets, F-L-O-S-S-E, décoder les mouvements de danse viraux qui font bouger vos enfants. Et art, Gala Québec Cinéma, les affamés sont rassasiés. Robin Aubert et son film de zombies raflent 8 iris. Système de transport, mesures de soutien bonifiées, aide aux entreprises, le gouvernement Couillard présentera aujourd'hui un plan d'action de 85 mesures pour favoriser le vieillissement actif des Québécois. La ministre responsable des aînés, Francine Charbonneau, annoncera à Trois-Rivières des investissements de 12 milliards sur 5 ans. Le plan appelé « Un Québec pour tous les âges » prévoit des sommes importantes pour des programmes de santé et différents crédits d'impôts. Mais la stratégie cible en particulier les personnes de 65 ans et plus qui souhaitent demeurer à la maison et rester productives dans leur collectivité ou sur le marché du travail. Bien que les résidences pour personnes âgées et les CHSLD reçoivent une attention importante, la très grande majorité des aînés résident dans leur propre domicile et ils souhaitent participer davantage à la société, a-t-on expliqué. La stratégie, dont plusieurs mesures ont été dévoilées à la presse, comprendra des initiatives de recherche, de partage des connaissances et de consultation afin d'orienter les politiques publiques. Elle comprendra aussi des mesures qui seront immédiatement perceptibles pour les aînés ou par leurs proches aidants. Le plan prévoit notamment une aide accrue aux organismes qui mettent sur pied des projets de transport pour les personnes âgées de 65 ans et plus. 25,2% proportion attendue des Québécois âgés de 65 ans et plus en 2031. 89,5% proportion des aînés québécois qui vivent dans un ménage privé plutôt que dans une résidence ou un CHSLD. Le plan prévoit aussi plusieurs mesures qui aideront indirectement les personnes âgées en ciblant les entreprises. Le gouvernement veut notamment reconduire et bonifier le programme Québec Amis des aînés qui finance des initiatives visant à adapter les milieux de vie aux réalités des personnes aînées. Cela permettra par exemple à des municipalités ou à des entreprises d'obtenir une aide financière pour rendre leurs espaces plus conviviaux, par exemple par l'aménagement de rampes d'accès ou de bancs. Douche froide pour Martine Ouellette. Seuls 32 % des membres du Bloc québécois lui ont accordé leur appui lors d'un vote de confiance. Un référendum a eu lieu au Québec en fin de semaine, mais ce n'était pas celui dont rêvait Martine Ouellette. Pas du tout. Soumise à un vote de confiance, la chef du Bloc québécois a récolté un appui famélique de 32 % des militants de son parti. Après des mois de querelles intestines, ces derniers avaient été appelés à se prononcer sur le leadership de leur chef. Leur verdict est sans appel. Devant un résultat aussi implacable, Martine Ouellette n'aura sans doute pas d'autre choix que d'annoncer sa démission ce matin. Une conférence de presse est prévue à 10h30 au bureau montréalais du parti. Les cyclistes montréalais et d'ailleurs se sont élancés dans les rues de la ville hier matin pour la 34e édition du Tour de l'île de Montréal, alors que l'on fêtait également la première journée mondiale de la bicyclette proclamée par les Nations unies. Le Tour de l'île de Montréal a réuni hier 25 000 cyclistes, dont près du quart étaient des touristes et excursionnistes, d'après Vélo-Québec, organisateur de l'événement. À la ligne de départ, tous les participants se sont amassés pour le coup d'envoi de 9h15, à l'angle des avenues du Parc et du Mont-Royal. Le départ a duré environ 1h30, le temps que tous les cyclistes se mettent en route. En plus de l'itinéraire traditionnel, un parcours découverte de 60 ou 100 km, un itinéraire balisé dans des rues ouvertes aux voitures, a été ajouté cette année aux différents trajets que pouvaient emprunter les cyclistes. Les participants avaient le choix de se lancer dans le 25 km, le 50 km, le 50 km express, ou bien dans l'une des deux distances du parcours découverte. Le tour de l'île s'est achevé en début de soirée après une journée radieuse. Des artistes de Montréal complètement cirque attendaient les participants à l'arrivée pour des prestations et des animations participatives. La prochaine édition du Festival Go Vélo Montréal aura lieu du 26 mai au 1er juin 2019, a annoncé Vélo Québec. Exclusif à la presse, aménager un nouveau centre de tri à la fine pointe de la technologie. Trouver des déboursés au Québec pour les matières recyclées, sensibiliser les Montréalais à l'importance de mieux recycler, Montréal dit vouloir faire prendre un virage majeur au recyclage afin de sortir de la crise dans laquelle l'industrie se trouve actuellement plongée. Le prix des matières recyclées s'est effondré depuis les restrictions imposées en début d'année par la Chine sur leur importation. Les ballots de papier sortant du centre de tri de Montréal se vendent seulement 17 $ la tonne, alors qu'ils valaient plus de 150 $ il y a un an à peine, relate Jean-François Parenteau, élu responsable du recyclage au sein de l'administration Plante. Jean-François Parenteau indique aussi que la Ville devra mieux informer les Montréalais sur ce qu'ils peuvent recycler et ce qu'ils doivent mettre aux poubelles. La boîte de pizza graisseuse qu'on met au recyclage ne contamine pas juste le bac, ça contamine le camion, c'est la chaîne au complet que l'on contamine, dit-il. 160 000, Montréal produit de 150 000 à 160 000 tonnes de papier recyclé par année. Les autobus à 1 $ lors des journées de smog sont de retour jusqu'au 3 septembre. La Société de transport de Laval réduira le droit de passage à 1 $ sur l'ensemble de son réseau d'autobus lorsqu'Environnement Canada lancera un avertissement de smog pour la grande région de Montréal. 237 556 personnes se sont prévalues du tarif à 1 $ depuis 2008. Ce programme visant à réduire le nombre de voitures en circulation et ainsi freiner la pollution atmosphérique, est en place depuis 10 ans. Les alertes au smog ne correspondent toutefois pas au portrait dressé par le ministère de l'Environnement du Québec. Selon les données statistiques colligées sur le smog, phénomène dû à la concentration, la persistance et l'étendue des particules fines et à l'ozone, Laval a connu 116 jours de smog de 2008 à 2016. Durant la même période, Montréal a eu 166 jours de smog. Les secours s'apprêtaient à repartir lundi à la recherche de rescapés de l'éruption du volcan de feu au Guatemala, qui a fait au moins 25 morts, projetant de la lave et des cendres sur une vaste zone. L'éruption du volcan de Fuego, le volcan de feu, de 3763 mètres d'altitude et situé à 35 km au sud-ouest de la capitale Guatemala, a entraîné l'évacuation de 3000 personnes et la fermeture de l'aéroport international. L'éruption a touché notamment des communes rurales proches du volcan et la cité coloniale d'Antigua, le plus important site touristique du Guatemala. Le bilan à 21h ce dimanche, 23h à Montréal, est de 25 morts, parmi lesquels se trouvent plusieurs enfants, a déclaré le porte-parole de la Coordination nationale pour la gestion des catastrophes. « Si cette fois-ci on est sauvé à la prochaine éruption, non », a déclaré Efren Gonzalez, de 52 ans, assis dans un abri dans le département d'Escuintla, où il a été évacué du village. El Rodeo, le plus touché, avec sa femme et sa fille d'un an.
Wow, là, je vis de bord pendant qu'il est pas trop tard. Moi, j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore. Wow, là, je vais de bord pendant qu'il est pas trop tard. Moi, j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore. J'ai fermé mes réseaux sociaux, ça m'engourdit le cerveau. J'suis tanné de voir la face de ton chien, ton humeur du matin. J'ai vendu ma télévision parce que je trouve le temps long. J'ai l'impression d'être un robot qui bouffe tes commerciaux. Wow, là, j'ai de bord pendant qu'il est pas trop tard. Oui, j'arrête là, puis j'sors dehors, le soleil brille encore. J'ai éteint la radio depuis que ma langue est un ratio. Toujours les mêmes chansons qui tournent sur les mêmes stations. J'ai chiffonné le journal, j'tannais de voir les scandales. Mais au moins, ça me fait du papier pour partir le foyer. Wow, là, j'vais de bord pendant qu'il est pas trop tard. Moi, j'arrête là, puis j'sors dehors, le soleil brille encore. J'ai fermé le téléphone, il paraît qu'on m'espionne. J'aime mieux parler aux petits oiseaux, quoi qu'ils ont peut-être des micros. Wow, là, j'vais de bord pendant qu'il est pas trop tard. Moi, j'arrête là, puis j'sors dehors, le soleil brille encore. Voilà, je vais de bord pendant qu'il est pas trop tard. Moi, j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore. Voilà.
Les Tireux de Roche avec un titre assez facile à se souvenir, c'est la pièce Wola.
À la une du Devoir, une photo glamour. Gala Québec Cinéma, Les Affamés de Robin Aubert a remporté 3 prix dimanche soir au Gala Québec Cinéma, dont celui du meilleur film. En photo aux côtés du cinéaste, la comédienne Brigitte Poupard et la productrice Stéphanie Morissette. On voit Robin Aubert portant des lunettes miroirs. Bloc québécois, Ouellet désavoué par les militants. Le président de la BANQ a failli à la tâche. La ministre de la Culture dénonce le travail du président démissionnaire du conseil d'administration. Une collation des grades de couleur lavande. L'Université McGill tient une cérémonie dédiée aux finissants LGBTQ+. Bilan du congrès du PLQ, Couillard face au vent du dégagisme. Aussi, Le Monde, Rome montre la voie. Une chronique de François Brousseau. Carnet Santé Québec, des patients rapportent des lacunes. Matière première, une chronique de Jean-François Nadeau. Et solliciter les entreprises pour améliorer les pistes cyclables. Le président démissionnaire du Conseil de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, a failli à la tâche, affirme la ministre de la Culture, Marie Montpetit. Elle dit avoir nommé un nouveau président et directeur général sans l'aval du conseil d'administration parce que ce poste était vacant depuis plus d'un an. Le président du conseil d'administration a vraiment failli à la tâche. Il a vraiment échoué dans le mandat qu'il avait de trouver quelqu'un pour diriger BANQ, a déclaré la ministre Montpetit au Devoir dimanche midi. Elle réagissait pour la première fois à la démission du président du conseil de BANQ, Martin Carrier. Celui-ci a quitté son poste la semaine dernière pour dénoncer la nomination par le gouvernement du nouveau président-directeur général Jean-Louis Roy à l'insu du conseil d'administration. Jean-Louis Roy, âgé de 77 ans, a une longue feuille de route. Il a notamment été directeur du Devoir délégué général du Québec à Paris et secrétaire général de l'Agence intergouvernementale de la francophonie. Le président démissionnaire de BANQ insiste, il n'a rien contre M. Roy, mais il déplore que la ministre l'ait nommé sans l'aval du conseil d'administration. Le CA a été mis devant le fait accompli. M. Carrier, grand patron de la firme de jeux vidéo Frima Studio, estime que la gouvernance de BANQ avait un élan depuis son arrivée en 2016 avec le renouvellement en profondeur du CA et la séparation des postes de président du conseil. Ce spécialiste du numérique devait faire prendre un virage à BANQ. « Je trouvais important de respecter cet élan », indiquait le président démissionnaire au Devoir. Si Mme Monpetit a le culot d'affirmer publiquement que le président et le CA ont mal fait leur travail, elle va se faire parler. Elle doit s'interroger sur les causes du refus des candidatures qui ont été soumises. Est-ce que les conditions de travail offertes par le gouvernement étaient adéquates, a dit Yvan Lamonde, professeur émérite au département de langue et littérature française à l'Université McGill. Son mandat au CA de BANQ a pris fin le 6 avril. Une collation des grades couleur lavande, les études universitaires s'apparentent souvent davantage à un parcours du combattant qu'à un long fleuve tranquille. Décrocher un diplôme s'avère particulièrement laborieux pour les étudiants LGBTQ+, dont le chemin est semé d'embûches. Afin de célébrer leur accomplissement, l'Université McGill tiendra ce mardi, pour la première fois au Canada et peut-être même à l'extérieur des États-Unis, une collation des grades lavande pendant francophone des Lavender Graduations, au sud de la frontière. « C'est tellement cool », s'enthousiasme au téléphone l'universitaire américaine, militante LGBTQ et auteur Ronnie Sanlo, qui a lancé le bal de ces cérémonies devenues tradition aux États-Unis en 1995. Madame Sanlo, âgée de 70 ans, ne se doutait pas, en 95, donc près de 25 ans après leur première édition, les collations des grades. Alors, elle ne se doutait pas que les collations des grades lavande deviendraient une tradition annuelle dans plus de 500 établissements scolaires aux États-Unis. Elle s'en réjouit aujourd'hui, tout comme elle applaudit à la première célébration du genre à l'extérieur des États-Unis, à sa connaissance, qui se tiendra à l'Université McGill ce mardi. Près de 95 000 personnes ont demandé à la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, un code pour accéder à leur dossier de santé en ligne, le Carnet Santé Québec, depuis son lancement le 22 mai dernier. De ce nombre, un peu plus de 32 000 se sont ensuite connectés pour consulter leur dossier en ligne. Ils s'ajoutent aux quelques 19 000 patients qui accédaient déjà à leur dossier dans le cadre des projets pilotes lancés en amont à Laval et à Québec, pour un total de 51 895 utilisateurs actifs jusqu'à présent. Plusieurs patients qui se sont connectés ont indiqué au Devoir que les informations apparaissant à leur dossier étaient incomplètes. La RAMQ indique que si toutes les pharmacies communautaires et tous les laboratoires d'analyse et d'imagerie publiques sont connectés au dossier Santé Québec et donc en mesure d'alimenter le carnet Santé Québec, il y a encore du chemin à faire pour que le branchement soit parachevé. Le ministère de la Santé et des Services sociaux compte ajouter à terme une bibliothèque santé au carnet Santé Québec. Bien qu'elle appuie l'idée d'un carnet de santé virtuel, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la docteure Diane Francoeur, craint que l'outil ait encore eu besoin d'un peu de rodage, ce qui suscite des inquiétudes. Notre principale inquiétude, malgré le délai de 30 jours, c'est que le patient découvre des résultats que son médecin n'a pas encore eu l'occasion de lui expliquer. Elle croit également que les patients auront davantage de questions qu'auparavant. Des équipes municipales ont enlevé dimanche des milliers de cartes, de photos et de fleurs placées à la mémoire des victimes du camion Bélier qui a endeuillé la ville Rennes en avril. Ces objets seront remplacés par un mémorial permanent. Le maire de Toronto, John Tory, a assisté à l'enlèvement des mémoriaux improvisés, installés dans les jours qui ont suivi l'attaque du 23 avril. Tous ces objets seront placés dans un entrepôt jusqu'à ce que la municipalité trouve une façon appropriée de les exposer, a-t-il indiqué. Pour l'instant, une plaque temporaire a été placée à l'endroit de l'attaque, mais la ville souhaite y ériger un monument permanent, ajouté M. Torrey. 10 personnes ont été tuées et 16 autres ont été blessées lorsqu'elles ont été fauchées par une camionnette le long d'un trottoir. La Jordanie est le théâtre depuis plusieurs nuits de manifestations contre des hausses de prix et un projet de loi augmentant les impôts. Alors, Kamam est sous pression du FMI pour entreprendre des réformes économiques structurelles. Les syndicats ont appelé à une nouvelle grève nationale mercredi en regrettant que les négociations avec le gouvernement aient échoué à faire retirer le projet de loi fiscale. Samedi soir, notamment, des milliers de citoyens ont défilé devant le bureau du premier ministre pour protester contre ces hausses. L'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie a été convoqué dimanche au ministère algérien des Affaires étrangères après la diffusion d'une vidéo hostile au président Abdelaziz Bouteflika, tournée selon Alger dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles. L'ambassadeur John O'Rourke s'est vu signifier la réprobation et l'indignation des autorités algériennes après la publication sur Internet de cette vidéo attentatoire au symbole de l'État algérien, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Selon lui, l'enregistrement en question a été réalisé dans des installations officielles du Parlement européen, en utilisant et en détournant abusivement des symboles de l'UE, l'Union européenne, pour porter gravement atteinte à l'honneur et à la dignité des institutions de l'Algérie. Interrogée par l'AFP, la délégation de l'UE en Algérie a confirmé la convocation de son ambassadeur, mais n'était pas en mesure de dire si la vidéo incriminée avait été tournée ou non dans les locaux du Parlement européen. Restez avec nous, le quotidien des quotidiens de ce 4 juin se poursuit après la pause et la chanson avec la revue de presse du Journal de Montréal.
Je suis pris au fond d'une poche de coton. mais je suis pris au fond d'une poche de coton.
La pièce Sleeping Bag, c'était Danny Placard qu'on vient d'entendre.
À la une du Journal de Montréal, 7 avions cargo ont atterri à Mirabel et F1 débarquent en ville. Hydro-Québec ne sait pas quoi faire avec ses surplus d'eau, des millions de dollars déversés chaque jour. 40 ans de la victoire de Gilles Villeneuve, la pression était forte, c'est une citation de sa femme Joanne. La chronique d'Isabelle Huot, quelques salsas mangées cet été. C'est plutôt quelle salsa manger cet été? Permis de polluer à Longueuil, la ville jette dans le fleuve des contaminants qu'elle autorise une entreprise à déverser à l'égout. En échange de quelques milliers de dollars par année, Longueuil autorise une entreprise de traitement d'eau usée industrielle à déverser des doses élevées de contaminants directement à l'égout. Le journal a mis la main sur une entente entre la ville de Longueuil et H20 Traitement Industriel Inc. qui lui permet jusqu'en 2020 de déverser dans le réseau d'égouts de l'azote ammoniacal à une quantité dépassant de 28 fois la norme permise par le règlement de la Communauté métropolitaine de Montréal, CMM. L'usine d'assainissement de la ville est incapable de traiter ces eaux toxiques, selon Yves Comeau, responsable du laboratoire de génie de l'environnement de l'École polytechnique. « C'est scandaleux », lance-t-il. « Si on permet à une industrie de rejeter à l'égout des contaminants qu'on ne peut pas traiter à l'usine d'assainissement, c'est comme si on lui permettait de déverser dans le fleuve. » Longueuil estime que la quantité de contaminants qu'elle permet de déverser est minime par rapport au total du volume d'eau traitée. Une entreprise veut forcer Montréal à faire pareil. Une compagnie traîne Montréal devant les tribunaux car elle souhaite qu'un juge force la ville à accepter ses rejets d'eau usée. Alors que Longueuil permet à une dizaine d'entreprises de rejeter de l'azote ammoniacal dans les égouts municipaux au-delà des normes, Montréal refuse de donner une autorisation similaire à Sanimax, une multinationale qui récupère des carcasses d'animaux afin de les recycler. Dans les documents de cour consultés par le journal, Montréal explique qu'elle refuse d'autoriser les entreprises à rejeter de l'azote ammoniacal parce que son usine de traitement des eaux usées est incapable de traiter ce contaminant. Dans une lettre adressée à la ville et déposée au tribunal, la présidente du Conseil patronal de l'environnement du Québec, Hélène Lauzon, indique qu'une quinzaine d'entreprises sont confrontées au même problème que Sanimax à Montréal. Pour Mme Lauzon, la solution passe par l'installation d'un système de traitement secondaire à l'usine d'assainissement municipal. Les entreprises pourraient ainsi bénéficier de ce système capable de traiter l'azote ammoniacal en échange de redevances. Son ex-copine avait déjà porté plainte contre lui. Après avoir enlevé la victime, il a été arrêté au terme d'une cavale de 3 heures. L'homme qui a enlevé son ex-copine hier en banlieue de Montréal faisait déjà face à des accusations de harcèlement criminel, ainsi que de menaces envers elle et avait été condamné pour agression sexuelle dans le passé. Benjamin Dallaire, 26 ans, s'est présenté vers 8h45 sur la rue de Bellefeuille à Saint-Eustache, armé d'un bâton. Il a embarqué de force son ex-amie de cœur, Isabelle Cyr, dans son VUS Mitsubishi RVR noir. Dallaire, qui demeure dans l'arrondissement Saint-Hubert à Longueuil, a été retrouvé avec sa victime à quelques 120 km du lieu de l'enlèvement après une cavale de 3 heures. C'est une information reçue du public qui a mené les policiers dans un chalet appartenant à la famille du suspect à Notre-Dame-de-la-Merci dans la Naudière. Il a été arrêté sur place et était toujours interrogé par les enquêteurs de la Sûreté du Québec en fin d'après-midi hier. Madame Cyr était saine et sauve, a confirmé le corps policier, et a été conduite dans un centre hospitalier pour un choc nerveux. Selon les informations obtenues par le Journal de Montréal, 3 plaintes avaient été déposées contre Dallaire en l'espace de quelques jours au début du mois de mai par son ex-copine. Progrès majeur dans la lutte contre le cancer. L'hormonothérapie et l'immunothérapie donnent de l'espoir. De nouvelles avancées médicales permettront à plus de patients atteints d'un cancer du poumon ou du sein d'éviter la chimiothérapie dans les prochaines années, selon des études publiées hier lors d'un prestigieux congrès mondial d'oncologie. Les nouveaux traitements risquent d'allonger leur espérance de vie, mais aussi d'améliorer leur qualité de vie pendant les traitements puisque les effets secondaires sont moindres qu'avec la chimiothérapie. S'est enthousiasmé le Dr Richard Béliveau, directeur scientifique de la chaire en prévention et traitement, qui a suivi de près la conférence annuelle de l'American Society of Clinical Oncology à Chicago. La chimio, c'est une guerre nucléaire contre le cancer. L'immunothérapie, c'est plus comme si on donnait des armes au système pour combattre les cellules cancéreuses. L'hormonothérapie, c'est une attaque ciblée, vulgarise le Dr Béliveau. Autant de traitements qui ont toute leur place dans son coffre à outils contre le cancer, comme il se plaît à le visualiser. La chimio et la radiothérapie ne vont pas disparaître avec ces nouveaux traitements. Les meilleurs profs du Québec samedi, massage et méditation, hier une amoureuse de la lecture et aujourd'hui un prof de secondaire qui se démarque, la science expliquée avec Tintin. Un professeur de Bécomo se sert du personnage pour donner le goût d'apprendre à ses élèves. Il s'appelle Patrice Harvey. Pour M. Harvey, l'enseignement va bien au-delà de la matière. Les sciences, c'est un prétexte pour qu'on soit ensemble, c'est ma porte d'entrée, je ne fais pas des sciences, je fais de l'éducation, lance-t-il. Lorsqu'il enseigne, il tient souvent dans ses mains une tasse à café où il est inscrit « J'enseigne aux leaders de demain ». C'est vraiment un super prof, il fait tout pour qu'on réussisse, affirme Marie-Pierre, une de ses élèves. Patrice Harvey enseigne depuis 32 ans, dont 28 à la polyvalente des Baies de Bécomo, où il a lui-même terminé ses études secondaires. « Je fais partie des meubles ici », lance-t-il, avant de se faire interpeller pendant la pause par une élève qui voulait lui faire part d'une bonne nouvelle. Malgré ses nombreuses années d'expérience, M. Harvey a toujours et encore le trac avant chaque rentrée scolaire, raconte-t-il. Il veut faire bonne impression et ne pas manquer son coup auprès des nouveaux élèves. De plus en plus d'Indiens demandent l'asile ici. 4 fois plus d'Indiens que l'an dernier ont demandé l'asile au pays et Ottawa cherche activement des traducteurs pour traiter leurs dossiers. Les conflits religieux et les violences contre les femmes sont fréquents en Inde, comme le rapportait l'an dernier l'organisme Amnesty International, ce qui pourrait expliquer en partie la hausse des réfugiés. En 2015, on y dénombrait 327 000 cas d'agression sur des femmes. L'existence d'une communauté sikh au Canada et le multiculturalisme, dont fait d'ailleurs abondamment promotion le gouvernement de Justin Trudeau, pourrait inciter les demandeurs d'asile indiens à venir s'installer ici. Le journal s'est entretenu dans les locaux de l'organisme avec plusieurs personnes de confession sikh, donc comme la majorité des demandeurs d'asile indiens au Canada. « Chez nous, nous ne sommes pas en sécurité », a indiqué un homme qui a requis l'anonymat. « La police ne nous protège pas et la justice est corrompue ». En tout, ce sont 770 Indiens qui ont effectué une demande entre janvier et mars contre 205 sur la même période en 2017. Et l'organisme dont il était question, c'est Ressources, Action et Alimentation, donc. Alors, candidate pour Québec solidaire dans la circonscription de Taschereau, Catherine Dorion sera des manifestations anticapitalistes prévues en marge du G7. Je comprends pourquoi les manifestants vont manifester. Moi, je vais y aller le 9 juin et je pense qu'il faut être à la hauteur de nos convictions. On est là pour un monde plus beau, plaide-t-elle en entrevue avec notre bureau parlementaire. Auteure et comédienne, Catherine Dorion a déjà brigué les suffrages dans ce même comté du centre-ville de Québec sous la bannière d'Option nationale. Elle souhaite que les manifestations se déroulent sans grabuge. « Je conseillerais aux manifestants d'être beaux et dignes », insiste la mère de famille de 35 ans. Catherine Dorion s'est récemment fait montrer du doigt par la députée péquiste sortante Agnès Maltais en raison d'un billet rédigé à l'automne intitulé « Catalogne-Québec, chercher de nouvelles armes ». Le texte fait référence aux tensions qui ont déchiré la province espagnole. La lutte et le conflit, c'est pas juste dommage ou triste ou déplorable. Il arrive que ce soit de la vitamine pure qui redonne vie à ce qui était mort en nous, écrit-elle. Selon la péquiste, il s'agit là d'un appel à la violence. La candidate solidaire rejette cette interprétation. « Non, je dis, il va falloir se préparer à la violence », réplique-t-elle. Elle rejette le moule de politicien et refuse de tomber dans le pitchage de boîte qui caractérise le jeu politique.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions of my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on me so hard. And it's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Moments just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Sing, and there is no
combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together.
Le toujours très charmant Jack Johnson et de son album In Between Dreams, paru en 2005, c'était la pièce Better Together.
Les journaux régionaux, alors cette semaine, on parle beaucoup de Formule 1 et aussi de G7. L'artiste Wartin Pantois s'en prend au G7, c'est dans Le Soleil d'aujourd'hui. Henri Ouellette-Vizina qui signe l'article « Wartin ou Wartin ». Pantois a de nouveau frappé dans la capitale dimanche. L'artiste engagé s'en est pris cette fois au G7 en dévoilant une installation urbaine in situ sur laquelle est représenté un groupe sélect de 7 décideurs génériques qui tournent en rond, rampant autour des richesses du monde. Intitulé « Le groupe des 7, l'œuvre d'art » était exposée ce dimanche au centre-ville de Québec aux abords du jardin Jean-Paul Lallier, au coin des rues de la Couronne et de Saint-Vallier-Est. L'installation est composée de 7 hommes en papier collés directement sur le pavé. 5 lingots d'or s'ajoutent également au centre de l'œuvre afin d'illustrer les ressources convoitées sur les 5 continents. J'ai voulu illustrer l'impression citoyenne que ces sommets à huis clos tournent à vide, que nos décideurs sont plus préoccupés par le pouvoir et l'argent que par le bien-être de la population et l'avenir de la planète, explique le natif de Saint-Roch peu après son coup d'éclat. Au dire de l'artiste, ils, les décideurs, semblent aussi bien plus intéressés par les mesures de sécurité et leur confort que par la démocratie et l'expression citoyenne alors que l'espoir est là. Très conscient du fait que son installation artistique sera rapidement retirée par les autorités, comme ce fut le cas par le passé à plusieurs reprises, Wartin Pantois affirme que l'œuvre est plutôt donnée en pâture aux représentants de l'ordre établi qui s'empresseront d'en effacer toute trace. Il ajoute qu'en réalité, la mort d'une œuvre est probablement la preuve qu'elle aura été vivante. Dans les dernières années, bon nombre de ces œuvres publiques ont effectivement été détruites ou simplement retirées de l'espace public. Parmi celles-ci, mentionnons notamment Santé pour tous, dont les collages incarnant des usagers de drogue avaient été simplement arrachés le même jour, ou même printemps 2018, une œuvre représentant une scène d'émeute historique qui avait disparu des murs du Collège Aviron en quelques heures à peine. Pantois se définit comme un artiste en art visuel, sociologue et surtout citoyen engagé. Son travail est notamment connu au Canada, mais aussi en Allemagne et au Portugal, où il est intervenu à quelques reprises par le passé. Dans le Nouvelliste, c'est Gabriel Delisle qui signe l'article. La générosité des gens de la région s'est fait une fois de plus manifester ce week-end à l'occasion des relais pour la vie de Shawinigan et de la TUC. Ensemble, les participants de ces deux événements ont recueilli près de 146 000 $ pour la Société canadienne du cancer. Durant 12 heures de samedi soir à dimanche matin, les participants de Shawinigan et de la TUC ont marché durant 12 heures pour célébrer les survivants du cancer et rendre hommage à ceux qui sont disparus. Les 171 marcheurs regroupés dans 21 équipes du 14e relais pour la vie de Shawinigan ont récolté 100 000 $. Lors du premier tour du relais pour la vie, 80 survivants du cancer et leurs aidants ont ouvert la marche. De plus, les bénévoles ont vendu sur place 1443 luminaires, alors que les coprésidents d'honneur étaient Guy Pellerin et Mylène Pellerin. Nous avons à Shawinigan un des plus beaux relais pour la vie du Québec. L'endroit est magique, soutient Caroline Lemieux, agente de développement à la Société canadienne du cancer. Le mot « famille » était écrit avec des luminaires sur la pente gazonnée du parc. D'une grande signification pour elle, ce mot avait été choisi pour la survivante d'honneur du relais pour la vie de Shawinigan, Marianne Schlegel. Du côté de la TUC, les quelques 120 participants répartis dans 12 équipes ont récolté 45 900 $. Le tour des survivants regroupait 50 personnes et leurs aidants. Du début à la fin de l'événement, 250 personnes ont participé au relais pour la vie de la TUC. Par ailleurs, les organisateurs du 7e relais pour la vie de la TUC ont vendu 1200 luminaires. Survivant du cancer, le joueur des Loups de la Tuque, Jean-Sébastien Tremblay, agit à titre de président d'honneur de l'événement. Dans le quotidien, un ordre pour les plus jeunes. Annie-Claude Brisson, les jeunes inspirants de moins de 35 ans de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean bénéficient maintenant d'une nouvelle forme de reconnaissance. Lancé dimanche, l'ordre de la Camerise met en lumière l'implication des jeunes dans la vie communautaire et culturelle régionale. Déjà, l'initiative régionale, qui rappelle évidemment l'ordre du Bleuet, fait énormément réagir. Bien connu du milieu artistique régional, Max-Antoine Guérin a eu cette idée qui peut de prime abord sembler loufoque. Avec mes collègues de Canopée, Nicolas Lévesque et Sophie Gagnon-Bergeron, nous cherchions une façon de présenter des portraits. Nous avons travaillé dans le domaine communautaire et culturel pendant de nombreuses années, alors nos archives débordent, explique-t-il. Certes, le nom du projet est humoristique, toutefois, la démarche est sérieuse. On blaguait autour du fait que la Camerise est le nouveau Bleuet. Il y a un petit clin d'œil relié à la controverse de la Camerise qui était présentée en couverture du nouveau guide touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La Camerise, qui est de plus en plus populaire, est encore méconnue. C'est un parallèle intéressant avec notre projet, raconte-t-il. Évidemment, le rapprochement est facile et naturel avec l'Ordre du Bleuet. Toutefois, le principal intéressé se défend de toute intention. L'Ordre du Bleuet fait un travail exceptionnel. On souhaitait faire un truc complémentaire et plus léger. Il n'y a aucune attaque et aucune critique envers l'autre projet, précise-t-il. À peine lancée, la création qui s'inspire du projet Humans of New York a déjà fait connaître sa première lauréate, Annick Martel. La coordonnatrice du centre Bang, slamestre et auteur, œuvre aussi dans le domaine des arts visuels et de la performance avec le collectif Les Poulpes. La cadence sera très rythmée alors que le créateur du projet a l'intention de présenter 5 portraits par semaine. Cette série inusitée présente un grand potentiel alors que Max-Antoine Guérin a l'ambition de dévoiler au minimum 200 portraits de gens qui augmentent la qualité de vie de la région. Il est d'avis qu'un bouillonnement culturel se fait sentir ici. L'Ordre de la Camerise invite la population à suggérer des jeunes qui font la différence dans leur milieu. Et dans le droit, Charles-Antoine Gagnon, un festibiaire exceptionnel. Le festibiaire de Gatineau a connu un succès de foule dans la cour du Musée canadien de l'Histoire. Les derniers chiffres de l'achalandage sur le site de jeudi à samedi n'avaient pas encore été comptabilisés dimanche par les organisateurs du rendez-vous des amateurs de bière artisanale, mais on évalue que le cap du 30 000 visiteurs sera dépassé. Ça a été une année exceptionnelle dans l'histoire du festibiaire, a résumé Alex Van Dieren, cofondateur de l'événement, tout en saluant Dame Nature qui a été généreuse. « Je pense que nous serons égaux ou au-delà de nos plus grandes éditions de 2014 et 2017 au chapitre de l'achalandage. » M. Van Dieren a en outre signalé que cette 8e édition du Festibiaire fut une année record au chapitre de la participation des microbrasseries avec 35 entreprises présentes. « Nous avons aussi augmenté cette année notre offre en matière de cidre et spiritueux. Ça a été un gros hit. On va vraiment y voir pour les prochaines éditions », a-t-il souligné. L'animation sur le terrain fut aussi couronnée de succès avec, entre autres, plusieurs groupes locaux qui ont foulé les planches de la scène et une voyante par le tarot qui ne suffisait pas à la demande, a précisé M. Van Dieren. Dans la tribune, Marie-Christine Bouchard, Val-du-Lac, une autre étape vers les travaux. Le projet de faire de grandes rénovations au centre d'hébergement pour les jeunes Val-du-Lac de la Direction de la protection de la jeunesse et d'y construire un nouveau pavillon continue de progresser dans la grande machine du CIU 3S de l'Estrie-CHUS. Nous avons embauché des professionnels qui travaillent avec nos équipes cliniques pour faire un pré-concept afin que l'on puisse passer à l'étape des plans et devis. Nous devrions arriver à cette étape dans 3 ou 4 mois, explique Jean Ferland, directeur des services techniques au CIU 3S de l'Estrie-CHUS. Comme le projet est compliqué par l'absence de lieux de débordement où loger les jeunes de façon sécuritaire pendant les travaux, ce n'est toutefois que quelque part à l'automne 2019 que le chantier devrait se mettre en branle. Merci d'écouter la radio de Canal M, de Vues et Voix, la radio Canal M de Vues et Voix. C'est l'émission Le quotidien des quotidiens, c'est lundi le 4 juin et c'est Hélène Denis qui vous accompagne avec grand plaisir. À venir, les sujets libres, mais d'abord les actualités culturelles. On reviendra bien sûr sur les lauréats du gala Québec Cinéma. Restez avec nous.